Bonjour Philippe Darajon.
Bonjour Shaima.
Merci d'être avec nous ce matin. Donc vendredi dernier, la province sud organisait un atelier transition économique et écologique sur le thème prévention des déchets des navires hors d'usage. À l'horizon 2032, 6000 bateaux de plaisance seront en fin de vie. En quoi cette filière pourrait être porteuse pour la Nouvelle-Calédonie, Philippe Darajon?
Bonjour et merci de m'avoir invité. La filière de déconstruction, donc ce qu'on appelle la filière des NHU, des navires hors d'usage, actuellement en Nouvelle-Calédonie n'est pas encore réglementée. Les choses se mettent en place petit à petit. Ce qui est apparu il y a quelques années déjà, c'est qu'on avait face à nous de nombreuses épaves, que ce soit des bateaux de plaisance, que ce soit des barges ou autres minières, qui polluent le lagon, qui polluent la mangrove, et que donc il fallait absolument s'occuper de ça. Donc il y a eu, je dirais, une réflexion première, une étude qui a été faite sur le volume que pouvaient représenter ces épaves. En même temps, je dirais, on le voit sur chaque phénomène cyclonique ou gros coup d'ouest, on a quelques bateaux qui s'échouent en baie de l'Orphelinat. Donc systématiquement, on a à gérer des épaves en Nouvelle-Calédonie. Et donc il faut réglementer. Réglementer, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver et mettre en place une filière de déconstruction, parce qu'il s'agit la plupart du temps de renflouer le navire, de le tracter sur une zone où on va pouvoir le démanteler, et ensuite, je dirais, de trouver les fonds pour le faire, parce que bien évidemment, on n'a pas toujours des propriétaires et de temps en temps, je dirais, ils ne sont pas solvables et donc on a des épaves à gérer. Donc toute la réflexion maintenant porte sur comment financer cette filière. En métropole, ça existe, c'est déjà organisé. La plupart des bateaux sont construits en métropole et pas en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des taxes qui sont perçues en métropole qu'on ne perçoit pas en Nouvelle-Calédonie pour cette filière de déconstruction. Donc c'est un vrai sujet, avec une opération pilote qui a été montée sur une quinzaine de navires.
Et justement, j'allais vous en parler, cette opération pilote, elle a eu lieu en début d'année, elle a été initiée en partenariat avec le cluster maritime, entre autres, et d'autres partenaires. Il s'agit d'un chantier test de démantèlement de 16 navires épaves. À quoi ça va servir concrètement ?
Concrètement, d'abord, ça va servir à dépolluer. Ça, c'est une chose évidente. Et en effet, oui, c'est en partenariat notamment avec la province sud qui a mis des gros moyens, je dirais, pour pouvoir organiser cette première étape, qui était une étape de validation, en fait, des process de déconstruction. Dans l'enceinte du port autonome à Nouville, on a pu faire ça. C'est une société qui a été sur appel d'offres choisie et qui a permis de valider le process. Comment on déconstruit et surtout, je dirais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière comme filière de réutilisation des matériaux. Donc il y a aussi non seulement les coûts en amont, mais il y a aussi ce qu'on peut en récupérer, parce que la plupart du temps on a quand même pas mal de choses qui sont récupérables. Il y a même une bourse ou je dirais un éco-recyclage qui se fait maintenant avec les éléments de bateau qui ont été démantelés. Ouais.
Et en termes d'économie et de création d'emplois, ça représenterait quoi ?
Alors pour l'instant, c'est difficile à dire, mais bon, on est clair qu'on est sur la création non seulement de quelques emplois, on va parler d'une petite vingtaine d'emplois, mais en même temps, ça va permettre également, je dirais, de créer des compétences localement, de former des gens et de, je dirais, mettre en place de la structuration complète de cette filière.
C'est une filière qui représenterait quand même des enjeux économiques derrière cela ?
Bah, c'est surtout des enjeux de coûts, hein, à l'origine, c'est clair, et c'est plus des enjeux environnementaux que des enjeux économiques, même si on sait qu'on va créer de l'emploi avec ça et qu'on a toute une partie de réutilisation de seconde vie. Il y a une société localement qui notamment travaille sur la fibre, de manière à pouvoir créer par la suite du mobilier urbain avec la fibre récupérée, etc. Donc on a toute une filière qui va se créer, qui est en cours de création, sur laquelle j'ai du mal aujourd'hui à vous dire le poids économique que ça peut représenter.
Et enjeux tout de même économiques et environnementaux, c'est possible de concilier les deux ?
Ah ouais, c'est carrément notre leitmotiv au cluster maritime. Il est clair que même si on est dans l'économie et dans l'économie bleue, qu'on est créé, je dirais, pour mettre en synergie les acteurs économiques du monde maritime, cette économie maritime ne peut fonctionner que en respect complet, en intégrant non seulement l'environnement, bien évidemment, mais également les populations, puisqu'il faut que ce soit également, je dirais, des opérations qui soient acceptées sur un plan économique. On le voit notamment sur pas mal d'activités économiques vers les îles. On parlait de croisières. Il est évident que sans acceptation sociale des habitants et en même temps sans prendre en compte l'environnement, on ne peut pas créer une filière économique, par exemple, autour de la croisière. Donc il faut arriver à mettre tout ça en place. Mais oui, l'environnement est essentiel dans la démarche des entrepreneurs calédoniens. Ouais.
Nous sommes avec Philippe Darajon, le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez lui poser toutes vos questions au 258-258.
Philippe Darajon, dans cette stratégie de prévention des déchets des navires, comment pourrait-on éviter l'abandon de ces bateaux ?
Bah, peut-être en s'assurant dans un premier temps que, je dirais, il y a deux aspects à mon avis. Il y a l'aspect plaisance pure. On le voit, on a énormément de bateaux qui sont au mouillage. On a plus de 250 bateaux qui sont mouillés, par exemple, en baie de l'Orphelinat. Il y a des bateaux qui sont carrément des épaves flottantes, qui sont incapables de naviguer et sur lesquels il faut absolument réglementer le mouillage. Si on a des bateaux qui s'échouent, c'est parce qu'on a des bateaux qui sont pas amarrés comme il convient ou qui ont pas, je dirais, les éléments de sécurité qu'il faut. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on n'a pas, hein, et qu'on évite. Donc déjà, occupons-nous de la partie mouillage et réglementons ce mouillage. On est, je crois, un des rares pays au monde où le mouillage n'est pas organisé de manière concrète. Ça peut poser des problèmes de sécurité de navigation, ça pose des problèmes de déchets en mer. Donc réellement, ça, c'est un des premiers aspects. Et un autre aspect qui est plus environnemental, et là qui s'adresse plus aux mineurs, notamment avec les barges, où c'est vrai que pendant des dizaines d'années, on s'est peu occupé de ce qu'on faisait des barges qui étaient en fin de vie. Et on le retrouve beaucoup tout le long de la côte, des deux côtes d'ailleurs. Donc là aussi, il y a un engagement des mineurs maintenant du nickel calédonien vers un nickel bleu, en l'occurrence, et pas vert. Et donc là aussi, on sait qu'ils sont carrément impliqués là-dedans. Donc il y a des actions en amont sur la gestion des mouillages, la gestion des déchets de mine et notamment les barges, mais il y a également, je dirais, inciter et suivre la vie des bateaux, s'assurer que chaque propriétaire, qu'il n'y a pas de site de bateaux dortoir, comme il y a actuellement des locations de bateaux qui flottent à peine. Voilà, tout ce système-là est à remettre en cause pour éviter, et de le prendre en amont, parce qu'on sait que la vie d'un bateau, en gros, en plaisance, c'est entre 40 et 50 ans, et on aura forcément, je dirais, des épaves qui vont arriver dans les années à venir. Donc il y a le stock historique, comme on l'appelle, pour nettoyer tout ça, et ensuite il y a les bateaux qui vont arriver, de mettre donc une filière en place sur la durée long terme.
Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience en Nouvelle-Calédonie?
Moi, je pense que oui.
Je pense que oui,
très sincèrement. C'est des sujets aussi qu'on travaille avec les assurances, hein, parce que évidemment, ces bateaux, la plupart ne sont pas assurés, etc. Donc, il y a toute une logique calédonienne de prise en compte des navires hors d'usage. Et je suis très, très confiant là-dessus. C'est en même temps, je dirais, une décision politique, puisque ça implique beaucoup de services d'institutions. Ça passe par les affaires maritimes, ça passe par les assureurs, on en parlait, ça parle par les codes de l'environnement des différentes provinces. Donc, tout ça, c'est à mettre en œuvre et en synergie. Et c'est un des objectifs du cluster maritime, justement, de mettre autour de la table toutes les parties prenantes pour régulariser et réglementer tout ça.
Effectivement, tous les professionnels du secteur et à l'échelle pays, 27 000 bateaux de plaisance sont installés en Calédonie. Il y a une dizaine de jours, vous organisez la 6e édition des Journées de la mer. Nos ressources sont-elles suffisamment exploitées aujourd'hui ?
Alors, les ressources, c'est un grand mot.
Autour de l'océan.
Très, très clairement, non. Pour l'instant, on est dans une démarche, et je le vois notamment vis-à-vis de la table ronde qui a eu lieu sur le parc naturel de la mer de Corail, où on a des ressources. Ces ressources, on les exploite extrêmement peu. On le voit en termes de pêche hauturière, par exemple. On sait par ailleurs que la zone est pêchée tout autour de chez nous. On sait que les stocks de thon, sont des poissons pélagiques, donc ils bougent. Donc on sait que si on ne fait rien, de toute manière, si on ne surveille pas mieux, si on ne développe pas plus notre filière hauturière, on va finalement avoir notre ressource qui va disparaître. Donc il s'agit intelligemment de préserver et, je dirais, d'exploiter de manière raisonnée et raisonnable nos capacités. Mais il y a aussi beaucoup de ressources qu'on ignore actuellement. Et il y a eu, je dirais, notamment en termes d'innovation, une table ronde très intéressante, puisqu'on a quand même, dans le domaine maritime et en Nouvelle-Calédonie, et un tissu d'innovation extrêmement fort. L'innovation ne peut démarrer que si on a l'information. Autrement dit, il faut d'abord aller explorer, savoir, connaître réellement de quoi on dispose.
Donc, quelles sont les ressources dont on dispose?
Les ressources, elles sont halieutiques, on en a parlé, elles sont biologiques, elles sont en termes de développement autour des biomolécules, elles sont en termes de tourisme, elles sont gigantesques. On a une zone économique exclusive d'1 400 000 km² qui est gigantesque. Avec les problèmes que ça pose de surveillance, de savoir ce qui s'y passe et de s'assurer que les usages sont bons et préservent l'environnement là-dedans, mais en même temps avec une connaissance approfondie qui nous est maintenant nécessaire pour se dire, avant de dire on met tout sous cloche, on protège, on touche plus à rien, peut-être, mais sachons ce qu'on protège, sachons pourquoi et qu'est-ce qu'on met en place comme étude derrière pour pouvoir se dire comment on peut en faire bénéficier les populations, développer de l'économie, etc.
Est-ce qu'au fond, ça signifie que la Calédonie ne dispose pas véritablement d'une politique de la mer ?
Alors, la politique de la mer, elle se construit. Hein. C'est clair que jusqu'à présent, la mer n'était pas considérée comme étant une ressource première, une priorité. On sait que le nickel posait problème, qu'on cherche des moyens de développer les outils économiques de la Nouvelle-Calédonie post-nickel, ou en intégrant en tout cas d'autres solutions. Et donc, clairement, au niveau institutionnel, que ce soit gouvernemental, je prends pour exemple que c'est seulement le deuxième gouvernement où on a un membre du gouvernement en charge de l'économie de la mer. On plaide bien évidemment pour avoir un ministre, entre guillemets, de la mer exclusivement et pas d'autres secteurs, comme ça peut se faire par exemple en Polynésie. On plaide également pour la mise en place d'outils communs de gestion. La mer, elle est seule, elle est unique. Et on a, en Nouvelle-Calédonie, par le découpage provincial, par exemple, 3 codes de l'environnement, on a des dispositions qui sont diverses et variées. On a des compétences qui sont partagées ou pas. Et donc, il faut arriver autour de la mer à être seul et uni pour avoir une action collective. Parce que la mer, c'est la mer calédonienne. Et la mer ne change pas de province quand elle arrive à Poya.
Et justement, vous parliez des compétences qui sont finalement partagées entre les provinces, l'État, la Calédonie, il y a aussi le rôle des coutumiers. Est-ce qu'il y a finalement, il faut définir une politique commune? Vous, en tout cas, c'est la volonté du cluster maritime?
Absolument, je crois que je vous disais, il n'y a pas de développement économique possible si on n'a pas pris en compte des aspects environnementaux, des aspects sociaux et sociétaux. Le monde coutumier est essentiel dans le schéma, mais également, je dirais, les décideurs politiques qui doivent peut-être créer des structures, on appelait des comités stratégiques maritimes dans un premier temps, pour au moins se saisir d'une problématique en commun et à ce moment-là la porter jusque, pourquoi pas, une commission mer au Congrès qui serait en étude de texte spécifique à la mer. Donc tout un schéma institutionnel qu'il faudrait revoir.
Et justement, Philippe Darazon, il y a quelques années, vous évoquiez la possibilité de créer un comité stratégique maritime. Où en sommes-nous concrètement aujourd'hui ?
Concrètement, bon, vous connaissez aussi bien que moi, je dirais, tout ce qui a pu se passer au niveau institutionnel. Ce comité stratégique n'est pas encore créé, n'existe pas. On travaille, nous, de manière très, très rapprochée, le cluster maritime avec la province sud. Et on a décidé, dernièrement, notamment à travers la province sud, de créer un embryon de ce comité stratégique. Mais ça reste clairement une volonté collective affichée. On a eu, cette semaine, par exemple, une réunion qui a permis de mettre tous les acteurs autour de la table, institutionnels, provinciaux et autres, pour pouvoir discuter, par exemple, de la filière de mise en place de la grande plaisance. La grande plaisance, c'est du traitement des bateaux, c'est du mouillage, c'est des fonds, c'est de l'entretien, mais c'est aussi de l'acceptation sociale, hein, bien évidemment. Où est-ce qu'on va mouiller? Qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Donc tout ça, il faut l'organiser. Donc on a les prémices déjà de tout ça, mais peut-être qu'il faudrait les formaliser de manière un peu plus concrète.
Les institutions sont tout de même à l'écoute?
Ah, complètement, complètement. On n'a que des retours positifs. Je crois qu'on est plus confronté à l'organisation institutionnelle actuelle et au découpage des compétences actuelles plutôt qu'à une non-volonté de prendre en compte le fait maritime en Nouvelle-Calédonie.
Et à l'occasion des Journées de la mer, Philippe Darazon, le cluster a également dressé un bilan de ses activités. Après 8 ans d'existence, quel est votre poids économique?
Alors le poids économique, il n'est pas clairement défini. On avait monté un observatoire de l'économie maritime. Malheureusement, après 3 ans et les enquêtes successives, on n'est pas encore capable, je dirais, d'avoir un poids formel. Je vous donne un exemple. Le nickel calédonien, sans le maritime, n'existerait pas. Tout se transporte par mer, par barge, l'entretien des barges, des bateaux, etc. Donc le maritime est là-dedans. Mais ce n'est pas, par exemple, dans les statistiques économiques du cluster. Donc on a un gros projet cette année, c'est d'arriver à mettre en place justement une étude économique du poids du maritime. Ce qu'on sait, c'est que en 7 ans maintenant, on est maintenant plus de 100 membres au sein du cluster, qu'on représente les 26 filières du maritime qu'on avait pu identifier et qu'on est sur une multitude de projets qui vont de la déconstruction, on en a parlé, qui vont des moyens d'infrastructure qu'il faut mettre en place, qui traitent également du parcours éducatif mer, puisqu'il y a une nécessité de sensibiliser auprès de notre jeunesse de ce qui c'est le... Qu'est-ce qu'est leur mère, entre guillemets, avec des classes pilotes, etc. Donc il y a pas mal de choses qui s'agglomèrent pour finalement réussir à ce que l'économie maritime soit réellement représentative et représentée comme elle se doit.
Et on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets. Merci Philippe Darazon d'avoir été notre invité ce matin.
Merci de m'avoir invité, Sheima, et merci de parler de la mer.
Merci.